Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi, on est le 25 janvier 2022. Écoutez, en début d'émission, je voulais vous parler un petit peu de la teneur des commentaires que je reçois, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, par courriel, à cause des différents articles que j'ai écrits concernant les non-vaccinés ou les anti-vaccins. La violence des propos, vraiment, me fait... C'est tellement énorme qu'il faut en rire, hein, quand quelqu'un te dit « je te souhaite le cancer » ou, toutes sortes de sévices sexuels que les gens qui m'écrivent ont envie de me faire subir ou faire subir aux membres de ma famille. C'est assez particulier. Mais ce que je trouve surtout particulier, c'est que moi, je m'amuse de ça, donc je prends les commentaires des gens et je les nomme, les gens qui m'envoient des insultes, je les nomme et je mets ça sur Facebook et sur Twitter. Savez-vous quelle a été la réponse de Facebook? Ils ont fermé mon compte pendant 24 heures. Pendant 24 heures, je ne pouvais pas accéder à mon compte, je pouvais pas faire de commentaires, je pouvais rien faire parce que j'avais rediffusé des messages haineux à mon encontre. Ben, j'ai un petit message pour Facebook. Vous êtes pas en train de me protéger d'aucune façon, là. C'est complètement ridicule. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé vraiment un ben voyons donc complètement estomaqué. C'est rendu que Facebook punit les gens qui sont la cible de messages haineux au lieu de s'en prendre aux gens qui envoient les messages haineux.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous avez sûrement remarqué la même chose que moi quand le gouvernement fait des conférences de presse ou quand le gouvernement nous parle de santé mentale, des jeunes, ils sont toujours en train de mettre l'accent sur les sports, à quel point les sports, les activités physiques, c'est important pour le bien-être des jeunes. Et on oublie trop souvent que pour le bien-être des jeunes, il y a aussi les activités culturelles. C'est pour ça que j'étais très contente de lire dans les journaux ce matin une lettre ouverte de Martin Goujon. Il est comédien, il est auteur, il est propriétaire d'une école de théâtre à Granby. Et dans sa lettre ouverte, il dit exactement ça. Quand on parle de santé mentale des jeunes, ne pensons pas seulement au sport, pensons aussi à la culture. Martin Goujon est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Goujon.
Bonjour, Sophie.
Je suis tellement contente de vous parler. Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre-là dans les journaux, Monsieur Goujon?
Ben, vous avez vu que ma lettre, elle est très très polie, en quelque sorte.
Oui.
Très bienveillante. J'ai pas essayé d'attaquer personne parce que je suis quelqu'un, j'aime pas le conflit. Mais après 22 mois de pandémie, je me rends compte que on parle toujours de santé mentale, on parle de santé mentale des jeunes, et on fait toujours un lien avec le sport. Donc, que les jeunes doivent pouvoir sortir leur stress, évacuer la tension et tout et tout. Et comme si le sport était la seule chose. Et moi, ce que je constate dans mes cours, c'est que j'ai bien des enfants, bien des élèves qui sont pas des sportifs, qui sont des artistes. Et là, je veux pas faire une discrimination envers les uns ou les autres, mais ce sont des jeunes qui ont un trop-plein de quelque chose, mais de quelque chose d'artistique. Et ça aussi, ça doit pouvoir s'exprimer. Puis c'est ce que je constate dans les cours. On arrive, les jeunes, ça jase, ça piaille, et dès qu'on se met à faire un exercice, ils embarquent, ils se donnent. C'est vital. Et moi-même, comme enfant, quand je faisais du théâtre, quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, j'ai encore toujours ce besoin, ce désir d'exprimer des choses, le désir de manifester, de créer au quotidien. Et quand je crée pas quelque chose au quotidien, ben je fais le pas bien. Alors, je peux très bien imaginer ces jeunes-là qui ont plus d'espace de liberté. Alors, je souhaitais juste dire au gouvernement, s'il vous plaît, pensez à nous. Pensez c'est ça, pensez à nous, simplement.
Et c'est important, votre lettre, Monsieur Goujon, parce que, ben, on le sait, au Québec, il y a la religion, hein, c'est la Sainte Flanelle, puis on suit les efforts du Canadien, puis quand le Canadien perd, on a l'impression que le Québec au complet est en deuil, mais on ouais. oublie que c'est pas tout le monde qui tripe sur le Canadien, et qu'il y a d'autres façons de se faire du bien à l'âme, de se faire du bien entre les deux oreilles, et pas juste pour les jeunes, les adultes aussi. Donc c'est un petit peu cette espèce de double standard que vous dénoncez, parce que c'est pas le ton de votre lettre, mais que vous déplorez, mettons.
Oui, tout simplement, parce que encore hier, moi je suis en Estrie, bon, c'était les nouvelles TVA Estrie, et on nous parlait de justement telle association sportive qui dit là, il faut revenir, il faut parler de sport. Mais moi, dans mon secteur d'activité, des écoles de théâtre, on n'est pas regroupés, là, on est quelques-unes au Québec, souvent c'est les loisirs des villes, donc on n'a pas ce pouvoir de dire toc toc toc, allô l'association, on fait valoir notre point de vue, et je suis persuadé que ça apporte énormément à mes jeunes, mes petits, mes grands, mes moyens, là. Alors, voilà. Excusez, j'ai perdu le fil de la question, là.
Oh, c'est tellement pas grave. Il n'y avait pas vraiment de question, c'était plus une constatation. Mais ce
oui,
que j'aime
ça.
De votre...
Le sport, effectivement, que oui. Le sport nous intéresse pas tant. Ben, moi-même, le premier, je ne lis jamais les pages sportives. Alors, ça m'intéresse pas, tu sais. Mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, par contre. Alors, j'imagine que je ne suis pas le seul comme ça. Donc, s'il vous plaît, adressez-vous à nous également.
Oui, et ce qui est très beau dans votre lettre, c'est que vous dites pour bâtir un monde sensé, ça prend des humains sensibles. Je trouve que c'est extrêmement bien dit. On voit que vous êtes dans le milieu artistique et que vous savez manier les mots. Si vous deviez, par exemple, parler à ce soit à François Legault, que ce soit à Nathalie Roy, pour leur dire le bienfait que ça amène aux jeunes de faire du théâtre, vous diriez quoi?
Oh mon Dieu, hey. Ben, je les inviterais à venir passer 15 minutes dans un cours de théâtre. Parce que probablement que M. Legault, je sais qu'il aime beaucoup le sport, il est allé voir du hockey, mais est-ce qu'il est déjà venu dans une répétition, mettons, avec des jeunes, les voir dans leurs yeux un monde s'ouvrir, littéralement, voir que ces jeunes-là, souvent, c'est leur seul espace de liberté. J'ai des jeunes au théâtre que les parents me disent à l'école, mon enfant est timide, il prend pas sa place, il lève à peine la main. Et moi, dans mon cours, ce sont des bêtes de scène que je fais, ben, voyons, cet enfant-là a donc bien du caractère. C'est qu'on leur donne un cadre, on leur donne un environnement où ils peuvent s'exprimer. Ils savent que sur scène, c'est un espace de liberté contrôlée. Donc, on peut pas faire n'importe quoi, mais c'est un bel espace de liberté. Et donc, ils le prennent parce qu'ils l'ont pas nécessairement dans la vie. Et donc, c'est magnifique de voir ça dans les yeux des jeunes, de voir un jeune qui a une idée, et là, on développe l'idée pour en faire une improvisation, et de voir que ce petit détail-là peut devenir une histoire. Ben, je vois dans l'œil de ces enfants-là le potentiel de devenir, comme je le disais dans ma lettre, nos auteurs de demain, nos comédiens de demain, mais au-delà de ça, nos ingénieurs de demain, parce que l'ingénieur, il part d'une roche, puis en fait, une machine qui les triture pour en faire de la soupe. Bon, je dis n'importe quoi, bien sûr, mais donc, on développe la créativité de ces jeunes-là.
Alors, l'imagination?
Oui, l'imagination, la créativité, la folie d'être capable de penser, on en parle tout le temps depuis un bout de temps à l'extérieur de la boîte, là, en bon français, donc penser différemment. Donc, j'inviterais nos élus à juste venir voir l'œil de ces enfants-là et de ces ados et de ces adultes aussi qui font du théâtre avec moi pour retrouver cette force-là de la créativité puis de l'expression en fait.
Et quand vous dites, parce qu'on parle évidemment toujours des services qui sont essentiels de ceux qui ne le sont pas, on fait cette distinction-là, ouais. Et on fait aussi la distinction quand on parle de l'importance du sport et des activités physiques chez les jeunes, des bienfaits psychologiques, parce qu'on se préoccupe de leur santé mentale. Parlez-moi donc justement du bienfait psychologique de faire des cours de théâtre.
Ben, le bienfait, je pense qu'il est à plein de niveaux. Récemment, ben, l'année dernière, en fait, quand on pouvait enseigner, en fait, je coachais en bon français quelqu'un pour une chanson, parce que je coach aussi, je coach des interprètes. Donc, cette personne-là devait chanter. c'était quelqu'un qui avait une nervosité terrible, qui était prise d'anxiété presque généralisée. Et après avoir fait sa chanson, après avoir démystifié deux, trois petits trucs, la personne est retombée dans le moment présent, est retombée avec sa prof de chant qui était là et moi. Et tout à coup, le pouvoir donc de l'art a fait son travail, a calmé cette personne-là, l'a ramené ici et maintenant, l'a connecté à elle, l'a connecté au présent, à ses émotions. Là, on s'est connecté ensuite à la vérité du texte. Donc, ça l'a vraiment... écoutez, ça a changé sa journée et la nôtre aussi, parce que c'était magnifique de voir ça. Donc, le pouvoir du théâtre est très grand. On arrive à, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, à développer de meilleurs humains. De devenir des gens sensibles, devenir des gens attentifs aux autres, à l'écoute. On parle toujours de l'écoute au théâtre. Ben c'est ça. On écoute l'autre. Ben si on écoute l'autre, on va avoir une réponse à lui donner, mais une réponse sensible et sensée.
Donc les vertus de l'art thérapeutique, c'est vraiment ça. Ben écoutez, je vais vous remercier vraiment du fond du cœur de votre lettre. Vous soulignez un petit peu plus tôt que bon dans le domaine sportif, les différents regroupements peut-être de ligues majeures, de ligues mineures pardon, de différents sports, ben ces gens-là forment des associations, ils forment ce qu'on appelle communément un lobby. C'est vraiment dommage que du côté culturel, il y ait pas ce lobby-là, ou en tout cas que ce lobby-là n'ait pas la même force, le même impact. Donc, on souhaite que plus de voix comme la vôtre se fassent entendre, mais en tout cas, on souhaite que tout revienne à la normale le plus vite possible, mais je trouvais que ce cri du cœur de votre part, ou pour nous sensibiliser au fait que c'est pas tous des futurs Wayne Gretzky, qu'il y a plein de jeunes qui aspirent à être des futurs Guylaine Tremblay, ou des futurs Roy Dupuis, Magali Lépine-Blondeau, peu importe, là, que ça aussi, c'est important, puis que c'est la relève de demain. Merci beaucoup, Monsieur Goujon, oui, puis bonne chance pour la... Mais, oui, allez-y!
Non, j'allais dire, puis entendons-nous que pour ce qui est des règles sanitaires, moi, je suis pas un anti-rien de tout ça, justement, mais je souhaite simplement pouvoir recommencer à rencontrer ces jeunes-là. Nos jeunes seront vaccinés, nous sommes vaccinés, on va faire du théâtre dans le contexte à se réinventer de nouveau avec des masques, pas de masques en distanciation et tout, avec des écrans de plexi qu'on met entre les jeunes pour faire des scènes. On a fait ça durant toute la session dernière à l'automne. Ça a bien fonctionné malgré tout. Alors, on souhaite juste pouvoir recommencer à se rencontrer, à créer, à avoir du plaisir ensemble.
Ben merci beaucoup, Martin Goujon. Je rappelle que vous êtes comédien, auteur et propriétaire d'une école de théâtre à Granby.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
On savait que la question finirait par se poser à un moment donné de façon plus concrète. Ben, on en a un bel exemple dans le journal La Presse ce matin. On apprend qu'il y a eu au moins 3 cas de personnes non vaccinées qui avaient contracté la COVID sous une forme très grave et qui ont eu besoin d'avoir une greffe de poumon. Est-ce que ces gens-là sont passés avant des gens vaccinés, pleinement vaccinés? Quel genre de questions morales ça soulève? C'est de tout ça que Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler ce matin. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie. Écoute, c'est il y a des grandes questions morales là-dedans. Là. C'est moi, je lisais ça ce matin, puis je me sentais interpellée. Puis en même temps, je me disais, je n'aimerais pas être à la place du personnel soignant, de ceux qui prennent des décisions, parce que c'est un choix extrêmement déchirant. C'est 3 patients non vaccinés ou partiellement, puis on donne l'exemple, écoute, ça m'a... On donne l'exemple d'une femme, c'est pas son vrai nom, Suzanne, 49 ans, elle revient de voyage l'été passé et elle tombe malade. C'est une mère de 5 enfants, elle est pas vaccinée. Et son mari dit qu'elle n'était pas vaccinée parce qu'eux, ils font plus partie d'un groupe que t'es médicamenté à la dernière minute. Une fois que t'es malade, puis elle disait en forme, elle mangeait bien, elle dormait bien. Donc, elle voyait pas l'importance de prendre le temps d'aller se faire vacciner. C'est ce que son mari raconte. Et déjà là, tu pars en voyage, t'es pas vacciné. C'est dur de ne pas juger. Puis en même temps de considérer la gravité de ce qu'elle vit encore, ben c'est difficile. Puis tu sais c'était quoi l'image qui me venait, Sophie?
Vas-y.
C'était celle de Maxime Bernier là qui prenait une marche l'année passée là. Tu sais il y avait une manifestation qui disait moi je suis en forme, je m'entraîne, je mange bien, donc pourquoi j'aurais besoin d'un vaccin pour combattre un virus comme la COVID?
Voilà.
Et malheureusement ce message-là a fait écho chez beaucoup de personnes.
Exactement. Mais je suis tellement contente que tu l'amènes de cette façon-là parce que on prend bien soin dans l'article de la presse de ce matin de dire ce ne sont pas des gens qui sont anti-vaccins et ce ne sont pas des complotistes. Je suis d'accord que peut-être ces gens-là sont pas promenés avec une pancarte disant le vaccin fait pousser un troisième bras en plein milieu du front. Mais il reste que si t'es maman de 5 enfants et que tu n'es pas vaccinée parce que tu considères que ta santé est très bonne, ben ça s'appelle être contre les vaccins. Je m'excuse, on fait juste jouer sur les mots en disant ils sont pas anti-vaccins. Mais quand t'es rendu non vacciné, quand t'es mère de 5 enfants, je m'excuse parce que tu considères que les vaccins ils sont pas bons pour toi.
Mais le message de on est en forme là, a quand même fait écho chez plusieurs personnes. Moi j'en ai eu dans mon entourage. Puis je me disais, mais c'est pas possible. Tu sais, je veux dire, c'est aussi pour les autres qu'on le fait. Parce qu'il faut se souvenir que la première vague de la COVID, c'était les personnes plus âgées, c'était les personnes qui étaient déjà malades. On avait peur des comorbidités. Tu sais, c'était comme associé à une santé un peu plus chancelante. Et finalement, on s'est vite rendu compte que la COVID pouvait être contractée par n'importe qui. Puis on savait pas chez qui ça allait avoir le plus d'impact, malheureusement. Alors, moi, je lisais ça, puis c'est Maxime Bernier qui m'est arrivé dans...
Tout à fait, c'est très juste.
Ce message-là était dévastateur, beaucoup plus, je pense, a eu beaucoup plus de répercussions qu'on aurait pu le croire. Donc, cette femme-là se retrouve à l'hôpital et... ses deux poumons ne fonctionnent plus. C'est quand même, ça a été 5 semaines dans le coma parce que ses deux poumons étaient atteints par la COVID. On se dit que c'est rare, mais c'est arrivé partout dans le monde. C'est pas des effets secondaires, mais comment la maladie s'installe. Et finalement, on s'est rendu compte que cette femme-là avait tellement besoin d'oxygène qu'elle ne pourrait plus vivre sans respirateur. Donc, vite arrive la possibilité de la double greffe des poumons. Et c'est à ce moment-là, quand arrive une décision comme ça, c'est arrivé chez 3 patients au CHUM, quand arrive une décision comme ça, on peut imaginer ce que ça crée quand on est autour d'une table, parce qu'on sait c'est quoi la liste des greffés. T'as une liste régulière et t'as une liste d'urgence où vraiment la vie des patients est en jeu. Parce qu'en fait, c'est souvent une question de vie ou de mort quand on parle de greffe, quand on parle de greffe du poumon, entre autres. Donc, ces personnes-là ont été mises sur la liste d'urgence. Donc, ça veut dire qu'ils ont passé devant d'autres personnes qui étaient probablement vaccinées. Alors, c'est là qu'arrive le conflit moral de cette situation-là. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je veux dire, c'est difficile là, comme situation.
Ben c'est très difficile, puis je lisais ça ce matin, puis évidemment je me mettais dans la peau de quelqu'un, mettons toi-même ou ton amoureux, ton amoureuse, ton père, ton fils, peu importe, est sur la liste d'attente et a fait son bon devoir de citoyen, a eu ses 3 vaccins, s'est bien comporté, etc. et se voit dépasser dans la file. Puis après. Donc, je me disais, je comprends cette frustration-là, elle serait tout à fait légitime. Puis après, je me suis dit, est-ce que c'est pas le meilleur exemple que, justement, on vit dans un système démocratique où toutes les vies sont importantes? C'est-à-dire que les médecins, dans le système de santé québécois, Leur préoccupation, c'est de sauver des vies. Donc, ils commencent pas à dire, bon, toi, t'es non vacciné, donc on ne te soignera pas. Et je trouve que ça, c'est le plus bel exemple de solidarité humaine qu'on a au Québec. Et j'aimerais ça que des gens, justement, comme Maxime Bernier, ou des gens comme Éric Duhaime, qui arrêtent pas de dire qu'on vit dans une dictature, puis que c'est absolument épouvantable qu'on traite les non vaccinés comme des parias, puis des citoyens de seconde zone. C'est l'occasion pour ces gens-là de dire, ben non, regardez, les non-vaccinés, on les traite tellement de la même façon que les autres, on est tellement solidaires comme société, qu'on va justement les faire passer en priorité, ces gens-là, parce qu'ils ont besoin qu'on sauve leur vie. Tu comprends? Je trouve que c'est un argument fabuleux pour démonter complètement les théories des complotistes puis des gens qui disent qu'on vit en dictature.
Ben, moi, je sais pas où la dictature. Parce que présentement, si on a autant de mesures sanitaires, c'est à cause que notre système de santé ne tient pas le coup présentement, c'est difficile. On protège notre système de santé, c'est ce qu'on est en train de faire tous. Et pourtant, les non-vaccinés, ils ont accès comme les vaccinés. Il n'y a aucune discrimination basée sur la vaccination présentement dans notre système de santé. Et s'il y en avait là, peut-être qu'on pourrait entendre ces arguments-là, mais tant qu'il n'y en a pas dans le système de santé, tout ce qu'ils disent, ça n'a aucun sens parce que c'est ça la pierre angulaire présentement. C'est notre système de santé. Puis tu sais, moi, je parle avec plein de monde, puis il y en a, je te dis, qui arrêteraient ça. Ils demanderaient le passeport vaccinal à l'hôpital, tu comprends? Tu sais, il y en a qui sont tellement tannés des mesures que tu te dis, ben là, à un moment donné, ça va faire, mais on n'en arrivera pas là. Tu sais, je pense qu'on est mieux de demander le passeport vaccinal au Canadian Tire qu'à l'hôpital, on s'entend, là. Mais tant que ces gens-là ont des soins, personne peut dire qu'on vit dans une dictature parce que c'est la pierre angulaire et contre la COVID, où ça se passe, là, ben c'est dans les hôpitaux. Et tant que les hôpitaux sont ouverts à eux, je ne sais pas comment on peut utiliser le mot dictature ou encore on ne connaît pas la définition de ce mot-là. Parce que moi, quand je lis qu'il y a les médecins, les spécialistes, les infirmières, les infirmiers s'assoient autour d'une table et vivent des grands remous intérieurs en disant, mais qu'est-ce que c'est, eux, ils les voient, les patients, pourquoi elle plus qu'un autre, pourtant elle n'était pas vaccinée. Donc, ils doivent passer par-dessus ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leur vie pour dire, non, on est ici pour soigner ceux qui en ont besoin. Fait qu'eux, ils doivent aussi, tu sais, ça doit pas être facile, mais en même temps, ils sont là pour sauver des vies. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui a changé comme ça dans le service hospitalier. Quand quelqu'un se présente à l'urgence, il est traité de façon équitable. Et ça, tu sais, je pense que c'est pas facile pour tous, mais ils arrivent à le faire quand même.
Oui, puis tu sais, même quelqu'un comme Anne Cazabonne, en tout respect pour Anne Cazabonne, un de ses gros arguments quand elle avait fait ses fameuses sorties sur Facebook, puis quand elle s'était filmée, qu'elle avait fait des petites vidéos, c'est qu'elle disait le vaccin, c'est de la marde, excusez-moi, mais c'est ça qu'elle disait, parce que c'est un vaccin qui divise et qui fait qu'il y a deux classes de citoyens, puis on n'arrête pas de s'en prendre aux non-vaccinés, puis de les montrer du doigt, puis il y a de la discrimination. Ben non, Madame Cazabonne, il y en a pas. Là où ça compte vraiment, il y en a pas. Est-ce que oui, on fait une discrimination envers les non-vaccinés pour leur permettre de rentrer dans différents endroits? Oui, mais là où ça compte vraiment, c'est-à-dire que quand on vient le temps de sauver des vies, on ne la fait pas, cette discrimination-là. Donc, arrêtez de votre discours de peur, puis arrêtez votre discours de... Donc, le discours de division, il vient des gens qui s'opposent aux mesures sanitaires,
oui, parce que
bien plus que le reste de la société civile.
Il y en a pas dans les écoles, il y en a pas dans les pharmacies, il y en a pas dans les supermarchés. Je veux dire, là où on a besoin de tous aller, là, tout le monde peut y aller. Le passeport vaccinal ne s'applique pas dans ces lieux-là. Il s'applique dans les lieux où c'est pas obligatoire à ta survie, là. Ça fait qu'on est loin de la dictature. Puis en même temps, là, une chance qu'il y a, moi, je trouve que pour les vaccinés, ceux qui se protègent et qui protègent les autres et qui protègent notre système de santé, ben, c'est le temps qu'il y ait une discrimination positive pour eux aussi. Parce que c'est qu'à un moment donné, tu peux pas demander à une partie de la population, à la majorité, à la grande majorité d'une population, de vivre sous restriction pour une partie qui s'en fout complètement. Et en plus, dès qu'on parle d'eux, on se fait insulter, là. Tu sais, il y a pas de lien possible. Là. On parle de ça aujourd'hui, là, on va recevoir des insultes d'un paquet de monde. Là. Et tu sais, on voit la mère qui a eu, il y a un père qui demandait à ce que ses enfants soient vaccinés et la mère a été débutée en cours parce qu'elle disait que son enfant allait recevoir des cellules d'un fœtus mort dans le vaccin, puis en plus qu'il allait avoir une puce. Tu sais, je veux dire, c'est des arguments, là, ça n'a aucun sens, là, tu sais, je veux dire, on est rendu qu'on sait plus quoi inventer pour dire que le vaccin vaut rien, mais quand on regarde ces trois cas-là du CHUM, tu sais, le mari de cette Suzanne qui dit elle regrette de ne pas s'être fait vacciner, là, ben, je peux pas croire que ça n'a pas une valeur à un moment donné pour les non-vaccinés. Tu sais, je veux dire, elle, c'est pas une anti-vax, c'est juste qu'elle disait, ben, moi, je suis en santé. Mais oui, il y en avait un problème. Tu sais, tu pars en voyage. Puis, tu sais, c'était beaucoup de choses. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de lumières qui se sont allumées? Mais en tout cas, je pense qu'elle veut en allumer plusieurs lumières avec son histoire.
Ben, tu sais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, on se dit, ah, ça va allumer les lumières, puis ça va convaincre les récalcitrants. Puis, tu sais, je me souviens, par exemple, de cette jeune fille qui s'était retrouvée à l'hôpital, puis sa mère avait été interviewée à Denis Lévesque, tu te rappelles?
Ouais.
Puis c'était vraiment comme un cri du cœur. La dame était dans son auto devant l'hôpital, puis elle pleurait parce qu'elle disait, bon, ma fille, on sait même pas si elle va arriver à s'en sortir ou pas. Puis là, je me souviens, écoute, c'était il y a des mois de ça. Puis là, on se disait, bon, ben, c'est ce genre de témoignage-là, une émission comme Denis Lévesque, ben là, les récalcitrants, ils vont arriver à pleine poche, là. Les centres de vaccination vont être remplis de monde. Ouais. Ben, on se retrouve en janvier 2022, puis il reste encore quand même 500 000 personnes qui sont pas vaccinées, pas une dose, pas rien du tout. Alors, je sais pas si ces 500 000 personnes-là ne parlent ni français ni anglais ou regardent pas la télé ou lisent pas les journaux ou je sais pas ce qui se passe dans leur tête.
Mais tu sais, je lisais les journaux ce matin, puis il y a eu un vox populi, puis une dame a dit, ben oui, moi je m'en viens faire des commissions parce que ma voisine est âgée, puis elle est pas vaccinée. Puis là, ben parce que elle a comme, je sais pas, elle est pas capable de sortir de chez elle, mais je me dis, mais pourquoi cette voisine-là ne l'aide pas à aller se faire vacciner? Tu comprends, tu sais, comment ça se fait? Parce que cette dame-là, cette âgée, est encore à risque. Et il y a des choses comme ça où il y a des cas isolés. Est-ce que eux, on pourrait les prioriser puis dire, on va aller les chercher? Est-ce qu'on peut donner le vaccin à domicile? Tu sais, j'essaie de voir parce que là, on est rendu, on travaille sur les 500 000. C'est ce qu'on voit que Lionel Carmant essaie de faire. Mais on dirait que de juste parler avec un haut-parleur à ces 500 000 personnes-là, c'est pas ça qui va marcher. C'est vraiment, je pense qu'il faut cibler les sous-groupes de pourquoi ils sont pas vaccinés. Puis c'est pas tous parce qu'ils pensent justement qu'ils vont nous pousser un front dans, tu sais, un bras dans le front. Écoute-moi, j'ai une dame qui continue de m'écrire qu'il me reste quelques mois à vivre, là, tu sais, parce que j'ai été vaccinée. T'sais, elle est convaincue de ça. Fait que je pense qu'il y a des cas irrécupérables, mais je pense qu'il reste encore des gens. C'est peut-être l'isolement. Alors, comment on peut y arriver? C'est ça la question. T'sais, moi, cette dame-là, j'aurais aimé ça dire, mais donnez-nous l'adresse, on va aller la chercher. On va, si elle veut se faire vacciner, on va. Écoute, dans les élections, quand il y a une campagne électorale à la journée des élections, les partis politiques vont chercher les gens partout là pour les faire voter là.
Oui, on appelle ça faire sortir le vote et évidemment on le fait. Il y a même des fois des autobus devant les résidences pour personnes âgées. Si on les sort pour aller les faire voter, on peut sûrement les sortir pour les faire vacciner. Ou alors, comme tu dis, aller les vacciner chez eux, chez elles. Écoute, je regardais des chiffres ce matin dans le New York Times. Aux États-Unis, 75% des morts, c'est des gens qui avaient plus de 65 ans, des gens qui sont morts de la COVID. Donc c'est partout à travers le monde, ce sont les personnes âgées qu'on essaye le plus de protéger. Donc, l'argument de dire, bon, ben, tu sais, je peux pas sortir de chez moi, il faut trouver des façons. Écoute, Marie-Claude, on l'a effleuré un tout petit peu, puis c'est pas nécessairement le sujet dont on avait choisi de parler aujourd'hui, mais quand tu dis que notre conversation qu'on a en ce moment va nous attirer des courriels haineux, moi, je te le dis, ça fait, je sais pas, ça fait 12, 13 ans peut-être que j'écris dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, et l'enflure verbale, le degré de haine des courriels ou des commentaires sur les médias sociaux que je reçois, là, c'est du 22 sur 20. Là. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Même dans les périodes où j'ai été le plus controversée, là, mettons en 2012 avec la grève étudiante ou différents dossiers sur lesquels je me suis prononcée, c'est épouvantable. épouvantable. La haine qui est dirigée vers nous en ce moment, moi, j'ai jamais vécu ça.
Puis, est-ce que ça finit par t'atteindre, tout ça, Sophie? Quand on en reçoit autant sur une aussi longue période?
Ça ne m'atteint pas, mais ce que ça fait, c'est que ça me dit... Ce que ça me dit, c'est ce que ça... Ça me fait peur de tu sais, la cocotte minute, là, je sens qu'elle est prête à exploser. Puis c'est pour ça que quand le gouvernement annonce des allègements de mesures, je me dis, ben ils le font vraiment in extremis avant que la cocotte explose, là. Parce que moi, je m'en sers plus comme un baromètre de comment une partie de la population se sent. Parce que moi, honnêtement, là, je me suis fait une carapace. Puis moi, la façon que j'ai trouvé, c'est de rigoler avec ces gens-là. Il y a un monsieur qui m'a écrit des commentaires super insultants en me traitant de maudite française. Mon Dieu, ça faisait longtemps, je l'avais pas entendu, celle-là. Et le monsieur s'appelle Noël. Alors, je lui ai cité Joyeux Noël. Tu sais, j'essaie de répondre par l'humour, mais surtout ce que ça me dit, c'est le degré de crinquage des gens. Il me semble que les gens n'ont jamais été aussi crinqués. Et ça me fait peur, Marie-Claude. Pas pour moi, mais pour la société dans laquelle on vit.
Mais on commence à être crinqués des deux côtés de la clôture quand même.
Oui.
Mais moi, c'est ce que je remarque. Là, depuis le 30 décembre, pour moi, il y a un avant-après le 30 décembre.
Oui, c'est vrai.
La conférence du 30 décembre est vraiment arrivée, pas à minuit moins une, mais à minuit et une. Tu sais, où tout était prêt pour le lendemain, où on pensait encore voir quelques membres de notre famille. Et finalement, ça a été fin de recevoir. Et les gens avaient pris la peine d'aller se faire vacciner. Tu sais, il y en a qui avaient dit à leur famille, toi, tu viens pas parce que t'es pas vacciné. Il y avait, après ça, ben c'est terminé. Il y a plus rien. Et ça, je pense que cet espoir-là, cette lumière-là qui avait été allumée, s'est faite. Tu sais, il y a pas eu de gradation. On l'a éteinte d'un coup. Et là, on s'est ramassé dans la noirceur. Et ça, je pense que ça a mis beaucoup d'impatience. Et c'est le temps que les commerces, qu'on parle de réouverture. Puis la discrimination de avec le passeport vaccinal, ben, si on a un passeport vaccinal, ben, on peut-tu s'en servir puis le montrer? Qu'est-ce que, tu sais, oui, c'est plus de difficultés pour les commerçants, mais à quelque part, c'est une paix d'esprit, puis c'est aussi je trouve à quelque part une justice pour ceux qui sont rendus à leur deuxième et troisième dose, qui respectent les mesures. C'est la façon de se sortir aussi de cette grande noirceur dans laquelle nous sommes présentement. Et moi, c'est hier, on l'a dit, c'était mon anniversaire, mais tout ça pour dire que j'ai parlé à plusieurs personnes au téléphone. Puis tu sais, il y en a que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Et c'est clair qu'il y a une grande lassitude. Il y a personne qui dit « Ah, moi, ça va super bien ». Personne m'a répondu ça, tu comprends? Parce que là, on est privé de tout. Donc là, c'est le temps là, d'enlever la clôture, de lever la clôture, puis de nous laisser vivre. Et qu'on en mette des mesures de protection, qu'on en mette des détecteurs de codes vaccinaux partout, parce que moi, je suis fière de le montrer, mon code vaccinal, puis ça me dérange pas d'attendre si on me le demande, parce qu'au moins, ça veut dire que si j'attends quelque part, c'est ouvert. Tu sais, tout le monde a hâte de retourner au cinéma, a hâte de retourner au théâtre, a hâte de retourner faire du sport, a hâte de retourner au restaurant. On a hâte de revivre présentement, et on a l'impression qu'on se fait insulter par des gens à cause de qui on est empêché de vivre présentement.
Tout à fait.
Parce que c'est ces gens-là qui font que notre système de santé est en train d'exploser. Notre système de santé allait pas bien. Mais là, on a traversé la ligne où la ligne qu'on ne voulait pas franchir, on l'a franchie. Puis, c'est pas à cause des vaccinés. Alors, moi, je me dis, laissons-nous vivre au moins nous. Puis, les autres, moi, ça me dérange pas là, qu'il y a des barrières pour les non-vaccinés. Ils peuvent aller à l'hôpital, ils peuvent aller à l'épicerie, ils peuvent aller à la pharmacie, ils peuvent aller à l'école. Puis
non
le reste,
seulement
ils vont en ligne, qu'est-ce que tu veux?
Ben oui, non seulement ils peuvent aller à l'hôpital, mais ils vont être soignés si leurs soins s'ils nécessitent des soins d'urgence, comme une greffe des poumons. Imagine-toi de se dire quand même, parce que pour qu'il y ait une greffe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un donneur. Alors imagine si le donneur c'est quelqu'un qui a fait une bonne vie, qui s'est préoccupé des autres, et que ces poumons-là se retrouvent dans le corps de quelqu'un qui, on doit le dire quand même, en étant non vacciné, c'est un petit peu concentré sur son nombril, il n'a pas pensé au nombril des autres. Je trouve qu'il y a quand même une leçon humaine là qui est assez spectaculaire. Marie-Claude, encore une fois, joyeux anniversaire, puis dès la semaine prochaine, je pense, tu vas pouvoir aller au restaurant fêter ça. Merci beaucoup, Marie-Claude.
Merci, bye-bye.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors, le gouvernement du Québec a annoncé hier qu'il entamait des démarches pour faire en sorte que le quartier chinois à Montréal devienne un site patrimonial protégé. Il y a des gens dans le quartier qui se battent depuis des mois, pour ne pas dire des années, pour protéger justement le quartier chinois des griffes des promoteurs immobiliers qui ont vraiment les dents longues et qui n'ont pas beaucoup de respect pour le patrimoine. Et parmi les gens qui se battent vraiment depuis très longtemps et avec beaucoup de conviction et de passion, il y a mon prochain invité, il s'appelle Jean-Philippe Riopel, il est résident du quartier chinois, il est aussi guide de Montréal. Monsieur Riopel, bonjour.
Bonjour Madame Durocher, bon matin.
Bonjour, écoutez, vous avez dû, je sais pas, ouvrir peut-être pas une bouteille de champagne, mais une belle bouteille de 7-Up pour fêter ça hier.
J'ai arrêté de boire de l'alcool, mais oui, c'était pas du 7-Up, mais c'est effectivement une grande victoire. C'est une grande victoire pour moi personnellement. J'étais extrêmement ému parce que ça a été difficile, c'était un combat difficile, mais c'est aussi une grande victoire pour le quartier chinois. Et je dirais pour l'ensemble du Québec, parce que c'est un patrimoine qui est exceptionnel puis d'intérêt national pour tous les Québécois.
Bon, alors ça, c'est le point qui est important, puis je suis très contente que vous l'ameniez dès le début de l'entrevue, parce que, évidemment, Cube, on est disponible partout au Québec, puis il y a peut-être des gens qui se disent, bon, là, le quartier chinois, ça intéresse 22 personnes et leurs voisins. Pourquoi? Expliquez-nous, mettons qu'il y aurait quelqu'un qui nous écoute à Rimouski ou à Chibougamau, pourquoi c'est important le patrimoine bâti dans le quartier chinois de Montréal?
Ben merci de la question, puis je pense que c'est une question qui devrait être plus présente dans les médias francophones. Je vous remercie de couvrir ça. Donc, la personne à Rimouski, ce que c'est peut-être pas, c'est qu'elle a peut-être quelqu'un dans sa famille qui a vécu dans le quartier chinois. Le quartier chinois, c'était un quartier avant d'être le quartier chinois. Déjà, qui est un quartier qui est très ancien, qui a commencé à se développer déjà à l'époque de la Nouvelle-France. On appelle le secteur ici le Prêt-de-Ville. Et c'est un secteur qui a été occupé par des figures très importantes canadiennes françaises, des bourgeois canadiens français, dont un certain monsieur Barcelou, qui était très important, dont certains connaissent peut-être les savons Barcelou. Et aussi, oui. Dans la maison que j'occupe présentement, donc je suis le dernier locataire de cette maison-là, il y a eu Augustin Norbert Morin qui a été en fait le rédacteur des 92 résolutions qui ont été envoyées à Londres. Donc un
absolument. Patriote, ben oui, on apprend ça dans l'histoire. Oui, tout à fait. Les 92 résolutions. Donc il y a un côté patrimonial, il y a un côté aussi francophone, parce que bon, c'est sûr que quand on pense aujourd'hui au quartier chinois en 2022, quand on se promène dans les rues, on voit beaucoup de signes en chinois ou dans différentes langues asiatiques. Veut pas, il faut le dire quand même. On y parle beaucoup, beaucoup en anglais dans le quartier chinois, à mon grand dam. Mais donc, on oublie peut-être que ça, cette réalité-là, ça a occulté l'importance que le quartier occupe dans l'histoire francophone, canadienne, française au Québec. Puis, racontez-nous donc, au début, c'est une partie de la ville qui est plus bourgeoise. Et comment ça a fait qu'au fil des ans, c'est devenu... Qu'est-ce qui fait que la communauté chinoise... de Québécoises, mais d'origine chinoise, a commencé à s'établir dans ce quartier-là?
Bien, en fait, je veux quand même souligner, oui, il y a une présence canadienne-française extrêmement forte, mais il y a aussi une présence juive. Donc, un des premiers quartiers juifs à Montréal, on peut dire que le quartier chinois d'aujourd'hui est un des premiers quartiers juifs de Montréal. Il y a ici, en fait, la maison qui est voisine à la maison que j'occupe, ça a été une synagogue, et il y avait une présence d'une autre synagogue, une des synagogues les plus anciennes à Montréal, qui était ici dans le quartier chinois. Donc, et un des bâtiments, d'ailleurs, qui a reçu un classement du gouvernement du Québec, c'est le bâtiment qui est l'ancienne manufacture du Davis & Son, donc qui était une manufacture de tabac. Très, très important dans l'histoire du Québec, sachant que le Québec est un grand producteur de tabac. Et M. Davis était en fait un New-Yorkais de confession juive, et il est venu s'établir ici, dans ce qui est aujourd'hui le quartier chinois. Il a établi cette manufacture. Donc, pour l'histoire sociale des travailleurs, il y a eu des travailleurs francophones, mais aussi des travailleurs d'origine écossaise, des Irlandais qui étaient dans le secteur ici. Donc, la présence écossaise, irlandaise était très forte. Donc, le vivre ensemble, dont on parle beaucoup aujourd'hui, le vivre ensemble dans le quartier ici, il existe depuis plus de 100 ans. Là. Moi, je vis ici depuis 20 ans et j'ai une histoire très longue avec le quartier chinois. Évidemment, je suis pas d'origine chinoise, mais j'y vis avec mes voisins qui sont d'origine chinoise et d'autres origines aussi. Donc, ce vivre ensemble-là est très ancien. Donc, c'est pas une invention des années 70 de M. Trudeau, le père. Donc, c'est quelque chose de très ancien dans le secteur ici. Donc,
le fameux multiculturalisme, oui. Mais en fait, ce que vous racontez en quelques instants, en quelques secondes, c'est en fait une caractéristique du Canada, une caractéristique du Québec. C'est depuis des siècles, c'est un mélange, c'est un melting pot de différentes cultures. Ça, on en est parfaitement conscient et vous l'exprimez très bien. Et je trouvais ça important d'en parler de cette façon-là parce que vu qu'on dit le quartier chinois, on a l'impression que il y a que ça, mais en fait, c'est un mélange et c'est ça qui fait la beauté du Québec. C'est tout ce mélange-là. C'est un immigrant polonais qui habite à côté d'une épicerie chinoise, qui habite à côté d'une synagogue. C'est ça, le Québec. Donc, c'est ça. Quand on parle du quartier chinois, c'est de ça qu'on parle. Et maintenant, vu qu'on la ville a annoncé, donc, et la province a annoncé qu'on protégeait ce patrimoine-là, parlez-nous du patrimoine bâti. Est-ce que, en effet, il y a des bâtiments intéressants d'un point de vue d'architecture? Est-ce qu'il y a vraiment des joyaux dans ce quartier-là?
Il y a définitivement des joyaux. Donc, c'est vraiment... il était temps que ces classements arrivent, ces désignations arrivent. Moi, j'ai travaillé extrêmement fort là-dessus. C'est moi qui ai fait la demande pour un site avec ma collègue Élise Lévesque, que je viens de mentionner, qui a été de toutes les étapes avec moi. Donc, c'est moi qui ai fait la demande au gouvernement du Québec pour que le quartier chinois ait une reconnaissance nationale dans son entièreté. Donc, on n'est pas encore arrivé à ça, mais on s'enligne vers ça. C'est un premier pas. Et si je peux vous mentionner, en fait, les deux bâtiments qui vont être classés, là, qui sont en processus d'être classés.
On est là pour ça.
Qui est mitoyen à ma maison, en fait, la maison où je vis, qui est aujourd'hui dans la compagnie Wings. Depuis 1962, la compagnie Wings occupe ce bâtiment. Donc, une compagnie qui est iconique pour le quartier chinois, qui existe depuis 1897. Mais avant d'être cette compagnie Wings, ce bâtiment a été construit par M. O'Donnell, donc le même qui a fait la Basilique Notre-Dame, un très grand architecte. Et c'est les deux bâtiments qui nous restent de M. O'Donnell, hein, la Basilique Notre-Dame et la British and Canadian School. Et cette British and Canadian School-là, c'était la première école non confessionnelle au Canada. Et c'est une école, en fait, qui avait été promue par des bourgeois francophones et anglophones pour avoir un accès à l'éducation pour tous. Francophones, anglophones, protestants, catholiques, juifs. Donc, c'était la première école non confessionnelle de l'histoire du Canada.
Et c'était la première école. Et on parle de quelle année?
1826. On parle de 1826. Donc, on est dans l'histoire ancienne, là. On est en Amérique du Nord, 1826, c'est vieux. Et c'est extrêmement avant-gardiste à l'époque. C'est un système de monitoring, excusez-moi l'anglicisme, mais c'était vraiment un système où les pairs, en fait, les étudiants les plus expérimentés, enseignaient aux autres étudiants, et il n'y avait pas, c'était garçon-fille, c'était non-professionnel, francophone et anglophone. Et donc, avant la révolte patriote, là, dans l'histoire. Donc, ça, c'est majeur dans le patrimoine de tous les Québécois. Puis je voulais revenir juste une seconde.
Oui, allez-y. C'est passionnant. Hein? Moi, je bois vos paroles, là. C'est comme du petit lait. J'adore ça. C'est passionnant.
Écoute, je peux vous en parler. Je vous invite d'ailleurs tous dans le quartier chinois à venir comprendre ce patrimoine-là et à faire des tours. On a des guides touristiques excellents à Montréal. J'en suis un. J'en fais partie. Ben, je ne dis pas que je suis excellent, mais je fais partie de cette
équipe. Moi, je vous le dis, vous êtes excellent.
Bon, ben merci. Je prends un compliment ce matin. Ça va m'aider à me réveiller. Donc, je voulais dire, en fait, que évidemment, maintenant, c'est le quartier chinois. Et ça, c'est important de le comprendre. Et aussi, moi, je l'ai vu évoluer, le quartier chinois. Donc, quand on dit qu'il y a une présence de langue anglaise, moi, je vois aussi une présence de gens qui parlent trois langues et des fois plus. Donc, moi, je vois des gens des plus jeunes générations qui sont arrivés après la loi 101. En fait, qui sont des enfants de la loi 101, plutôt. Et qui parle les trois langues, qui s'exprime en français, en anglais, en chinois, dans l'espace de quelques phrases. Donc, les gens d'origine chinoise ne sont pas un appendice au Québec. Ils font partie de l'histoire du Québec. Ils ont contribué au pays qui est le nôtre maintenant. Donc ça, je pense que c'est là où j'ai eu une émotion très forte avec cette annonce-là. C'est qu'enfin on reconnaît tout ça. Et il va falloir évidemment que ça vienne avec des subventions, que ça vienne avec des, et mise en valeur de ce patrimoine-là.
Voilà.
Et c'est pas terminé. Donc, on veut
c'est
une
détermination
pour l'ensemble du quartier chinois. Et la chose qui, pour moi, la plus importante et qu'il faut comprendre avec le quartier chinois, c'est que c'est bien des façades, mais on veut pas une société de façades. On veut pas seulement que des vieilles pierres. On veut, en fait, qu'on préserve l'intérieur de ces bâtiments-là et le patrimoine immatériel. Parce que quand on parle du quartier chinois, on parle de lieux de culte, on parle de temples, on parle d'associations familiales qui existent depuis, pour certaines, celle qui est à côté de chez moi existe depuis 1889. Et ça, c'est du patrimoine immatériel, mais qui est toujours vivant. Donc, j'avais des voisins, des amis du quartier chinois hier qui avaient des affiches. Le quartier chinois n'est pas un musée. Mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que c'est pas seulement des vieilles pierres, puis on est juste dans l'histoire. On est dans une histoire vivante qui est toujours vivante. Et ça, c'est important de le comprendre.
Tout à fait. Alors donc, on se retrouve en fait avec deux défis, parce que bon, la nouvelle d'hier, donc que le patrimoine sera protégé, c'est une bonne nouvelle. En même temps, il y a deux choses qui sont inquiétantes. Premièrement, que ce n'est pas l'entièreté du quartier chinois, donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Et aussi, en donnant cette désignation-là, patrimoniale, on s'assure que quand il y a des travaux ou quand il y a des choses qui doivent être bâties ou réparées, ça doit correspondre à certaines normes. Hein? C'est ça qui arrive quand c'est désigné patrimonial. Donc, ça veut dire que les promoteurs immobiliers ou les gens, si vous faites des rénovations chez vous, vous pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous devez demander des autorisations. Mon inquiétude, moi, Jean-Philippe, c'est que ces obligations-là ne soient pas respectées parce que, ben, tu sais, on est comme on est au Québec, on jappe fort, mais on aboie fort, mais on mord pas beaucoup. Donc, est-ce que vous sentez vraiment que qu'on va pouvoir bien le protéger, ce patrimoine-là?
Ben écoutez, c'est encore une fois une excellente question. Moi, je suis pas natif de Montréal, je suis natif de Chambly. Et j'ai vécu une catastrophe personnelle avec la maison en fait du Patriote à Boileau qui a été détruite par les autorités, par un maire sans cœur et sans connaissance de l'histoire. Ben c'est la même chose ici en fait. Là, le cas actuel, c'est que sincèrement, et c'est apolitique dans mon cas, moi je suis avec tous les gens qui sont là, tous les gens qui sont élus, qui vont dans le même sens, dans le bon sens du respect du patrimoine. Donc moi, c'est pas un parti politique ou un autre, ça m'intéresse pas dans ce combat-là. Mais il faut que nos élus mettent en place des façons d'aider aussi les gens de la communauté ici, les propriétaires, les petits propriétaires, parce qu'il y en a encore, heureusement, il en reste de moins en moins, mais il y en a encore, pour mettre en valeur ce patrimoine-là. Et il faut mettre des législations en place pour qu'on puisse, tu sais, vous le connaissez, le quartier chinois, vous l'avez sûrement visité plusieurs fois. Évidemment, c'est important de garder le caractère chinois du quartier chinois, mais c'est aussi important de mettre en valeur ces bâtiments historiques-là. Et pour ça, il faut un accompagnement, mais il faut aussi un accompagnement financier et que la ville soit là, la ville et le gouvernement du Québec. Parce que c'est important que le gouvernement du Québec soit aussi présent et qu'il jette pas tout dans la cour de la ville de Montréal et dire « Moi, je suis très, très, très content de l'annonce de Mme Plante. » Mais là, maintenant, il faut que le gouvernement du Québec aussi fasse sa part et je tiens à le mentionner et je vais les mentionner publiquement. Je vais mentionner deux personnes parce qu'on les oublie souvent, ces gens-là, des gens de l'ombre, des gens du ministère de la Culture avec qui j'ai été, de la Culture des communications du Québec, avec qui j'ai été en communication et qui ont fait un travail exceptionnel parce qu'eux, ils sont venus sur place, ils sont venus me rencontrer. Ils sont venus respecter mon expertise de terrain, mes connaissances.
Bien sûr.
Et ils sont venus dans ma maison ici, ils sont venus visiter les bâtiments qui ont maintenant une désignation, une classification patrimoniale. Je veux vraiment remercier Mme Grisé, qui est architecte au MCCQ.
D'accord.
Et Mme Ceci Morin.
Oui, tout à fait. Et puis, je suis contente que vous donniez leur nom, Jean-Philippe. Et ben, permettez-moi, moi aussi, à mon tour, de vous remercier. Premièrement, aujourd'hui, vous nous avez donné toute une leçon d'histoire. Moi, la prochaine fois que je vais aller dans le quartier chinois me chercher un petit canard laqué, je vais voir le quartier de façon complètement différente grâce à vous, Jean-Philippe. Vous êtes vraiment un excellent raconteur. Vous nous avez ouvert les yeux sur cette réalité-là. Et je veux vous remercier aussi parce que, ben, vous l'avez dit, hein, c'est vous qui avez rédiger cette demande de désignation patrimoniale. Vous vous êtes battu avec Élise Lévesque. Mais vous vous êtes battu. Il y a eu une pétition aussi. 7000 personnes qui ont signé une pétition.
C'est nous aussi qui l'a... Excusez-moi de vous poser un terme, mais c'est nous aussi, c'est moi et Élise Lévesque, en fait, qui ont participé
à cette pétition.
Qui avait parti la pétition. Qui a été appuyée par les gens d'ici aussi, par les gens de la communauté du quartier chinois, vraiment.
Voilà. Donc, vous pouvez vraiment crier victoire, et c'est, moi, je trouve que c'est une belle preuve d'engagement citoyen, sans aucune partisanerie politique, juste des citoyens concernés par l'histoire, préoccupés par la transmission aussi, c'est important, la transmission, et la culture, c'est pas juste des chansons ou du cinéma, c'est aussi du patrimoine bâti, puis l'histoire, c'est important de la connaître. Vraiment, une entrevue passionnante. Merci beaucoup, Jean-Philippe Riopel, résident, donc, énormément
chinois. Plaisir. Je vous remercie d'en parler.
Ben, ça fait plaisir.
D'en parler.
Oui, puis je pense qu'on a réussi à toucher le cœur des gens de Rimouski et de Chibougamau pour les sensibiliser.
Ben, ils sont les bienvenus.
Oui, mais je trouve que c'est important.
Le quartier chinois, c'est pas seulement qu'il y a des dumplings et, comme vous le disiez si bien, le canard laqué, c'est un patrimoine qui est un patrimoine pour l'ensemble des Québécois, évidemment.
Absolument.
Nos Québécois d'origine asiatique.
Voilà, absolument. On est tous Québécois. Hein? Le gouvernement pourrait faire une publicité en disant comment ça s'appelle, 5 personnes réunies en train de manger du canard laqué. Ça s'appelle des amis québécois. Merci beaucoup, Jean-Philippe Riopel. Ça a été passionnant. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Vraiment, moi, j'ai adoré cette leçon d'histoire. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci à vous, les auditeurs, les auditrices. Merci à Julien Boutillier. D'ailleurs, c'est lui qui a eu cette idée-là de faire une entrevue avec Jean-Philippe Riopel pour nous parler de l'histoire du quartier chinois. Merci aussi à Jean-François Paquette qui est là, fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation. On se retrouve demain.
Cube Radio.